Salut les dresseurs, salut les dresseuses, c'est Lou, votre journaliste Ouest France, expert en Pikachu, et je vous accueille dans notre podcast, le Poké Talk, pour tout savoir sur Pokémon, en compagnie de Malisson, le célèbre professeur lapin. Actu, décryptage, jeu rétro, on vous dit tout. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lou pour ce nouvel épisode du Poké Talk, votre podcast dédié à Pokémon sur westfrance.fr, cinquième épisode, toujours en compagnie bien évidemment du sémillant Malisson, le professeur lapin. Comment vas-tu Malisson ?
Eh bien bonjour à toi Lou, bonjour à toutes et à tous, et moi ça va plutôt pas mal, content des nouveautés qui viennent d'arriver, ça remet un petit coup de hype et il y en avait besoin.
Exactement. Bah si on réécoute du coup l'ancien le précédent épisode du coup du Poké Talk, on avait besoin d'un petit retour de hype. Oui. On était un petit peu déprimés la fois dernière, je sais pas pourquoi, peut-être la journée, la lune, je ne sais pas, les alignements planétaires. Mais là ça va beaucoup mieux, on sort tout juste effectivement du Pokémon Presents de ce 8 août 2023. Donc on enregistre direct juste après pour débriefer les nouveautés qu'on a pu voir sur YouTube, et j'en profite pour rappeler évidemment Malisson, qu'on te retrouve en tant qu'expert Pokémon, principalement sur YouTube, avec quasiment des nouvelles vidéos chaque semaine.
Voilà, oui, j'ai repris un rythme un peu plus convenable, et donc je sais pas à quel moment par rapport au podcast, mais je ferai une vidéo concernant cette nouvelle salve d'informations, pour analyser ça.
Analyser en détail. Nous, on va vraiment brosser les grandes lignes et voir un petit peu notre ressenti à chaud sur ce Pokémon Presents, que je risque d'appeler Pokémon Direct ou Nintendo Presents parce que je vais mélanger à chaque fois les noms, mais c'est pas très grave. Donc, on parle de ça aujourd'hui. Évidemment, il y avait des informations majeures sur le DLC, le masque turquoise et le disque indigo, le DLC de Pokémon Écarlate et Violet sur Nintendo Switch. Ça, on en parlera dans une seconde partie, mais d'abord, on va balayer un petit peu tout ce qui était petites annonces, et on va vous épargner tous les Pokémon Café Remix, les Pokémon Masters EX, tout ça. Ça nous intéresse moyennement. Est-ce que tu joues, toi, à ces jeux, Mali ?
Non, je jouais à Pokémon Café Mix avant ce rework en ouais. Remix. Le problème, c'est que maintenant, je trouve qu'il a un petit peu trop pris les habitudes de jeux mobiles avec des limitations de jeu. Si tu ne payes pas, enfin, voilà, ça m'avait un petit peu embêté, sachant que le premier, c'était bien. Tu pouvais enchaîner les niveaux, donc tu les gagnais. Et bon, bah, ça m'a un petit peu refroidi.
Ah, je suis un petit peu pareil, et rien de pire qu'un café froid, effectivement. Alors, les petites annonces autour de Pokémon. Tout d'abord, une grosse annonce quand même, puisque c'est la sortie d'un nouveau jeu. Une suite, c'est Détective Pikachu 2. Alors, c'est pas une officialisation, on avait déjà eu un premier trailer, et ça faisait très longtemps que le jeu avait été annoncé. On a eu de nouvelles images, présentation de nouveaux personnages. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce petit trailer de quelques minutes ?
Je pense pas grand chose, on va dire. Le premier, il m'était un petit peu tombé des mains. J'avais trouvé ça relativement ennuyeux.
Trop facile.
Oui, on avait vu des images un petit peu du deuxième. Là, on commence à apercevoir un petit peu plus de gameplay. Pourquoi pas ? Je pense qu'il faut pas s'attendre à quelque chose de formidable, mais moi, je me laisserais peut-être tenter, oui.
Alors moi, ce qui m'a un petit peu chiffonné, c'est que je le trouve pas très très beau. Très honnêtement, les personnages, la modélisation des Pokémon, les décors, tout est assez simple et basique quand même. Et c'est vrai que pour un jeu qui est plus posé, qui est plus aventure, qui est pas en monde ouvert non plus, il y avait moyen de faire quelque chose d'un peu plus chiadé, on peut dire. Ça t'a pas choqué, toi, au niveau des graphismes ?
En fait, je pense que la jurisprudence écarlate-violet m'a anesthésié sur les graphismes, et donc ça, t'as tout à fait raison, c'est pas très joli, mais comparé à écarlate et violet, ça va, donc voilà. Mon niveau d'exigence, il a vraiment diminué.
La bonne excuse pour faire le service minimal, après, bah, c'est bon, il y avait écarlate et violet, donc on peut... ouais, je vois ce que tu veux dire, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu dommage quand même. Pour revenir sur les graphismes, pour en reparler sur le DLC, j'ai l'impression que le DLC sera quand même un poil plus joli que le jeu de base, mais on y reviendra tout à l'heure pour parler d'écarlate et violet.
Voilà, je suis pas sûr, je viens de voir le site officiel avec la capture d'écran d'un des nouveaux Pokémon, et tu vois que la pelouse à côté, ça reste très compliqué.
Aïe aïe. Alors moi, ce que je reproche surtout, pour revenir à Détective Pikachu 2, enfin ce que je reproche, ce que j'attendrais, ce que j'aurais aimé avoir, en sachant que le professeur Layton revient du coup sur Nintendo Switch notamment, bah, ça aurait été justement des énigmes un peu plus fouillées, un peu plus denses, et pourquoi pas justement aller lorgner du côté jeu à énigmes tel que Layton plutôt que le côté point and click, parce que là ce sera un point and click allégé encore une fois, et apporter un petit peu de réflexion, un peu plus de réflexion, à mon sens ça aurait été pas mal. Bon, c'est pas vers ça qu'on se dirige, mais peut-être pour un Détective Pikachu 3, qui sait.
C'est vrai que j'aurais bien aimé, à la limite, en faire une sorte de professeur Layton, peut-être pour un public plus large, parce que certaines énigmes de Layton, c'est quand même assez compliqué, assez retors. Mais ouais, ça aurait pu être bien, malheureusement.
Mais après, c'est pas... imagine des énigmes Layton, mais avec des Pokémon, justement. Ça aurait été mignon, plein de petites énigmes comme
oui,
ça.
Oui, complètement, oui, carrément. Oui. Franchement, je pense qu'il y avait quelque chose à prendre là-dedans, mais bon, bah... Tant pis.
Et d'ailleurs, pour rester sur Détective Pikachu, on s'y attendait quand même, et il n'y a pas eu d'annonce autour du film, puisque le teasing autour du Pokémon Presents avait une imagerie un peu néon, justement, dans le style de Détective Pikachu 1. Et sachant que le deuxième film est entré en phase de pré-production il y a quelques mois, et que le tournage devrait commencer en 2024, on aurait pu avoir une officialisation en bonne et due forme, peut-être le nom du réalisateur, etc., ou les acteurs potentiellement, savoir si les acteurs du premier film rempilent. Là, bon, ben, zéro information, peut-être qu'il faudra attendre que le tournage soit bien commencé ou bien même terminé pour pouvoir en apprendre davantage. Est-ce que tu attends, toi, spécialement la suite du film ?
Bah, pas vraiment, parce que, bon, sans spoiler, la façon dont se passe et se termine le premier, j'ai du mal à voir comment un deuxième pourrait avoir lieu de façon logique, en fait, sans que ce soit vraiment soit un Deus Ex Machina, soit quelque chose de très tarabiscoté. Donc, ouais, je suis un peu suspicieux là-dessus.
Oh, je pense qu'ils pourront trouver un moyen, quitte à ajouter un nouveau personnage truculent dans un autre genre. Enfin, je pense qu'il y a quand même des moyens, mais effectivement, on va éviter de spoiler trop à la fin. Mais j'avais tellement aimé Détective Pikachu au cinéma que j'aimerais vraiment voir un 2, ça me ferait vraiment très plaisir. Je trouve que l'univers a été très très bien retranscrit, et surtout la modélisation réaliste entre guillemets des créatures, le ludicolo du bar qui est juste hilarant, le rond doudou, tout ça, enfin c'était vraiment très très cool. Enfin bref, on va continuer dans les petites annonces avec deux ressorties. Tout d'abord, Pokémon Trading Card Game qui rejoint le catalogue Game Boy du Nintendo eShop, enfin du Nintendo Switch Online. Tu l'avais fait à l'époque sur Game Boy, le TCG ?
Oui, je l'avais fait, j'avais bien aimé. Pardon, excusez-moi. J'avais bien apprécié. Il n'était pas très compliqué, mine de rien, mais oui, c'était bien. Alors après, peut-être que. Là, aujourd'hui, si on joue encore un petit peu aux cartes, bah, on va dire les cartes de l'époque, leur fonctionnement, leur mécanique et celles d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et
ah, ça.
Je pense qu'on peut trouver ça un peu simpliste par rapport aux cartes d'aujourd'hui et assez limité. Mais bon, petit coup de nostalgie, pourquoi pas, hein.
Ah oui, donc faut savoir qu'il fonctionne vraiment comme Pokémon. Il y a des arènes, il y a même une ligue, donc on va affronter différents types spécialisés. Il y avait 6 types à l'époque dans Pokémon, si je me souviens bien, hein, parce que les types acier et ténèbres sont arrivés par la suite. Le type fée est arrivé, puis il est reparti malheureusement. Ça a été un des grands drames de ma vie de collectionneur de cartes Pokémon.
Le type dragon aussi qui est apparu plus tard, je crois.
Oui, le type dragon, exactement. Lui, il est resté en revanche.
Oui.
Et la spécificité de ce jeu, c'est qu'on retrouve les vraies cartes, les premières éditées par Wizard of the Coast, du coup. Les premières vraies cartes, donc les premières séries avec les mêmes dessins, tout ça, donc qui étaient recréées. Avec quelques cartes inédites aussi pour le coup. Et d'ailleurs, le jeu était vendu avec une carte promo à l'époque. Il y avait une carte promo dans la boîte, dans le boîtier. C'était un Meowth, je me souviens, et je l'ai gardé précieusement. C'est mon précieux. C'est un très 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 bon jeu, hein, très honnêtement. Alors effectivement, comme tu le disais, les mécaniques sont beaucoup plus simples. Les Pokémon étaient moins puissants à l'époque. Oui. Aujourd'hui, ils te foutent des sacrées patates. Donc le rythme va être un petit peu différent. Mais franchement, il vaut vraiment le coup. J'aime beaucoup l'univers, l'humour, bien bien retranscrit. Il y a eu un 2 d'ailleurs qui n'a jamais franchi les frontières du Japon, et ça pourrait être bien de le proposer au moins en anglais sur le Switch Online. Franchement, je serais preneur. Autre jeu qui va rejoindre le catalogue, mais cette fois-ci de la Nintendo 64, c'est Pokémon Stadium 2. Est-ce que tu avais fait les Pokémon Stadium ?
Oh, j'ai passé un nombre impressionnant d'heures. Bah, d'ailleurs, peut-être plus le premier, parce que Pokémon, on va dire, c'est un jeu qui m'était tombé assez rapidement des mains, les versions bleu et rouge, que j'avais pas trop
apprécié.
Mais Stadium m'a vraiment mis dedans, et j'ai, pour le coup, j'ai beaucoup joué à Pokémon, ma version bleue, pour entraîner des Pokémon pour jouer avec dans Stadium, et donc ça a continué dans Stadium 2. Donc ce retour sur Switch Online, pourquoi pas, malheureusement sans pouvoir importer nos propres Pokémon, je trouve ça limité.
Ah, c'est vrai, pourquoi ils n'ont pas trouvé un moyen, un truchement pour pouvoir importer via le Pokémon Home?
Oui, ce serait, franchement, ce serait vraiment bien, qui permettent aussi de revisiter les anciens jeux, tous liés au Pokémon Home, ce serait vraiment bien, mais bon, bah, malheureusement, c'est pas encore le cas, peut-être que ça le sera un jour, peut-être pas.
Ouais, j'aurais préféré payer, limite acheter Pokémon Stadium 1 et 2 avec une compatibilité, plutôt que les avoir dans l'offre du Switch Online, hein,
gratuitement,
entre guillemets, pour les abonnés. Mais avec uniquement des équipes donc de prêt, on va vous prêter des Pokémon avec des capacités pré-enregistrées, et franchement, ils ont des movesets qui sont quand même pas terribles, hein, il faut le dire. J'ai refait Pokémon Stadium 1, donc sans équipe, travailler personnellement, et c'est un peu compliqué, ils se sont fait un petit peu plaisir, c'est-à-dire que bah, les Pokémon pas puissants, on va les booster avec des capacités puissantes. En revanche, les Pokémon qui sont déjà forts, bah, comme ils sont déjà forts, on va leur mettre des techniques pourries, comme ça. Voilà. On va un petit peu équilibrer de cette manière. Et bon, c'est pas très très drôle, on va dire, c'est pas très sympa. En revanche, ce qui était très très bien dans Pokémon Stadium 2, outre le fait que l'on pouvait, qu'il y avait un émulateur et que l'on pouvait donc jouer au jeu Game Boy via le transfert pack sur Nintendo 64 que l'on branchait sous la manette, on pouvait également suivre les cours dans une académie qui enseignait vraiment les rudiments du jeu de combat, mais aussi des choses un peu plus pointues comme les combos, les effets de météo, etc. Donc c'était vraiment pour mettre le pied à l'étrier. C'était vraiment très très bien fait, c'était assez sympathique. Et puis il y avait des mini-jeux vraiment très sympas sur lesquels j'ai passé des heures. Je me souviens le Vénard qui devait attraper ses œufs. Moi qui est un grand fan de le Vénard. Le Mélofée, ça c'est dans Pokémon Stadium 1. Enfin voilà, ouais. Les mini-jeux des Pokémon Stadium sont vraiment très sympas. Et pourquoi on n'a jamais eu de Mario Party, Pokémon Party? Ça aurait vraiment été cool là aussi. Mais
c'est bon. Vrai, maintenant que tu le dis, ouais, les mini-jeux étaient vraiment intéressants. Je me souviens qu'il y avait un où il fallait compter des Pokémon, je me souviens plus lequel. Je crois que c'était pas des Voltorb ou des... je sais plus.
Et ils explosaient peut-être effectivement à la fin. T'avais Chenipan et... Non, Crisacier et Coconfort qui devaient résister
à des
rochers. Mmh. Ouais, exactement, qui leur tombaient dessus, sinon ils se faisaient écrabouiller. T'avais Magikarp qui devait sauter le plus haut possible.
T'avais les Excellangues qui devaient... manger ou prendre...
Ah oui, c'était mon préféré.
Ouais, il était bien.
Ils devaient manger dans un restaurant, il était trop bien fait. On aurait vraiment dit des mini-jeux de Mario Party.
C'est vrai,
c'était excellent.
Pour des à côté, c'était très bien fait.
La course d'obstacles de Ratata, enfin tout ça c'est les jeux du premier. Je me souviens moins bien des jeux du 2 parce que j'ai pas joué récemment, mais je vais le refaire et je vais me faire un plaisir de refaire ces mini-jeux. Et mon cher Mali d'ailleurs, un jour quand on se recaptera en vrai, j'espère qu'on se fera une petite session de mini-jeux de Pokémon Stadium
à l'occasion. Avec plaisir.
Allez, on va attaquer le gros du sujet avec une première transition vers Écarlate et Violet. On va commencer par annoncer l'arrivée de Mew et Mewtwo dans Écarlate et Violet. Alors, que font des Pokémon originaires de Kanto à Paldea? On ne sait pas trop. En tout cas, dès aujourd'hui, dès maintenant et jusqu'au 18 septembre, vous pouvez récupérer Mew via le cadeau mystère disponible dans votre menu de jeu grâce au code. Est-ce que tu te souviens du code, mon cher Mali?
Absolument pas.
C'est Get Your Mew avec donc Your avec un 0 à la place du O car il n'y a pas de O pour les codes cadeau mystère, donc Get Your Mew, et vous obtiendrez alors un Mew entre guillemets unique dans le sens où son type de Terra Crystal va être défini aléatoirement parmi les 18 types existants, et je trouve le principe très très cool. Quel type tu le voudrais ton Mew, enfin quel type de Terra Crystal tu voudrais qu'il y ait?
J'y ai pas réfléchi, parce qu'en plus, je crois que même les attaques dépendent du type Terra Crystal, donc les 18 auront des attaques différentes, si j'ai bien compris. Quel type... Moi, Mew, j'aime bien jouer avec Morphing, pour en faire une sorte de métamorphe sous hormone.
C'est drôle.
Donc oui, pourquoi pas un Terra normal, quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a une petite technique avec... Si vous avez plusieurs profils sur votre Switch, vous récupérez un Mew par sauvegarde, vous les transférez au home, puis vous recommencez jusqu'à avoir celui que vous voulez, parce que vous aurez plein de Mew, parce qu'on imagine qu'il n'y a pas besoin d'avancer beaucoup dans l'aventure pour le recevoir, donc ça peut être cool.
Le cadeau mystère, il met quand même plusieurs heures, je crois, pour se débloquer.
Ah mince. Bon, bah, dans ce cas, il y a des...
Je crois que c'est soit automatiquement au bout de 4 ou 5 heures, soit après avoir vaincu le premier champion, il me semble.
Ah, ok. Ouais, bah, c'est peut-être plus long que...
Ouais. Bon. Mais bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont fait écarlate d'un côté, violet de l'autre, etc. pour récupérer tous les Pokémon existants. Alors Mewtwo, en revanche, lui, il ne sera pas offert comme ça. Il faudra le choper dans les raids Terra Crystal, dans des raids spéciaux qui seront lancés du coup du 1er au 17 septembre. Alors, il paraît, selon le site officiel, enfin du coup, c'est pas il paraît, on le sait, mais on ne sait pas quoi, il y a quelque chose qui va se passer si jamais on combat ce Mewtwo avec le Mew qu'on a eu via le code. Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas trop. Est-ce qu'ils vont se faire coucou ? Est-ce que ceci, cela ? Je ne sais vraiment pas ce que ça peut être, parce que bon, à mon avis, c'est forcément anecdotique, sinon ils l'auraient annoncé. Mais je vois. T'as une idée, toi, de ce que ça pourrait être ?
Non, pas vrai. Je crois que j'avais vu passer une info dessus de la part du leaker chinois, mais j'avais pas trop compris cette histoire de Mew et de Mewtwo, donc voilà, je passe mon tour dessus. J'ai pas envie de vous dire des bêtises.
Très bien. Puis ouais, les leaks, faut toujours les prendre avec des pincettes. Et d'ailleurs, moi, je me suis complètement désabonné des leaks comme ça. Je suis frais de toute information. Et c'est vrai que ça fait plaisir un petit peu, des fois, d'être surpris. Donc, Mewtwo, il sera de type Terra Crystal Psy. Donc, ce qui va le renforcer encore plus. Ce qui va le rendre assez redoutable. Il est rapide, il est puissant, il a une forte attaque spéciale. Donc, il va falloir s'accrocher pour le battre. Donc, on verra bien. Hein. Le type Ténèbres, a priori, pour vous aider. Mais à mon avis, il aura de quoi riposter quand même, hein, le petit filou. S'il est aussi difficile à capturer que... Alors, c'est Vert de Fer ou Serpentot que j'ai eu du mal ? Je sais plus lequel j'ai eu du mal à capturer.
Je crois que Serpentot était plus difficile. Enfin, dans mes souvenirs.
Ouais, bah, je sais plus lequel j'ai eu du mal à capturer. Il y en a un, j'ai eu du premier coup, et l'autre, j'ai dû le faire 10 fois. Bah, c'est vite violet. Bah, c'est... Non, c'est Vert de Fer pour lequel
D'accord.
j'ai eu du mal. Voilà. Bah, écoutez, on verra bien. En tout cas, voilà. Deux Pokémon emblématiques de la première génération sont annoncés. On n'en a pas fini avec la première génération. Vous allez en manger jusqu'à la fin de Pokémon. Alors, ensuite, parlons donc du DLC, le masque turquoise, le disque indigo, les dates déjà. Date officielle, donc le masque turquoise déboule le 13 septembre. Tac, ça, c'est fait. Donc, il n'y a plus longtemps à attendre, un petit mois. Un petit mois et on y est déjà. Ça fait plaisir. Faudra attendre l'hiver, du coup, pour le disque indigo. Alors, première chose, moi, qui m'a marqué, et ça y est, enfin, de nouveaux Pokémon. Et quels Pokémon, j'ai envie de dire. Alors, 4 nouveaux Pokémon ont été présentés. 2 un petit peu en coup de vent, on en parlera après. Mais d'abord, 2 nouvelles évolutions. Et oui, des évolutions de lignes existantes, d'autant plus intéressant, je trouve, que ce sont des Pokémon de la 8e génération, donc de Pokémon épée et bouclier, qui ont droit à de nouvelles lignes. Donc là, on est vraiment sur du très récent, et je trouve ça assez original et assez sympathique comme petit mouvement de la part de la Pokémon Company, enfin de Game Freak pour le coup. Une nouvelle évolution tout d'abord pour Verpom, un de mes Pokémon préférés. Donc une 3e évolution possible après Pomdrapi, après Dratatin, voici Pomdramour, toujours type plante et dragon. Alors ton avis, mon cher Mali, sur ce merveilleux petit Pomdramour ?
Bah en fait, je m'y attendais pas, pour être franc. Ça arrive un petit peu comme ça. Mais d'un autre côté, quand j'y repense, il nous avait dit sur le site officiel, lors de l'annonce des DLC, que pendant les festivités sur l'île, la fête des masques, eh ben, on pourrait prendre des confiseries, notamment des pommes d'amour. Et c'est vrai que ça m'avait pas mis la puce à l'oreille, mais finalement...
Ah, le petit teasing sympa.
Voilà. Et donc, je pense que, bah, sachant que Verpom évolue en Dratatin ou en pomme drapi avec 2 pommes, il y a la pomme acidulée, je me souviens plus l'autre, j'imagine que ça, ce sera simplement une pomme d'amour qu'on achètera ici. Donc, ce qui ont fait un Pokémon pas spécialement spécifique à Paldea, puisqu'à mon avis cet objet on pourra le retrouver dans de futures générations sans problème. Et je dois dire que j'aime beaucoup son visuel, même si je trouve peut-être un poil trop proche de Verpom.
Oui, à tel point que moi, quand je l'ai vu au tout début du trailer, je pensais que c'était une forme régionale. Donc j'étais tout excité, j'ai dit, ouais, des nouvelles formes régionales.
Oui.
Non, c'est une nouvelle évolution, ce qui est pas mal aussi. Mais bon, c'est vrai que il est assez différent de Pomdrapi et Dratatin, alors qu'il est très proche finalement de Verpom, donc c'est assez surprenant. En même temps, il fallait qu'il ressemble à une pomme d'amour.
C'est sûr, ouais. Il a une grande tige qui passe un petit peu au-dessus de sa tête. Ils auraient peut-être pu faire autrement, mais comme tu dis, ouais, je voyais vraiment une forme régionale. Mais après, il est mignon, le truc, je l'aime plutôt bien. En plus, niveau données avec, ils ont dévoilé une nouvelle attaque, un nouveau talent qui ont l'air d'être assez sympa.
Ah, raconte-moi.
Alors, il y a une nouvelle capacité qui va s'appeler Bombe au sirop. Il s'agit d'une capacité spéciale de type plante. Donc, on se souvient, il y avait Acide Malique pour Dratatin et Pomme Drapi. Je me souviens plus, mais c'était un petit peu moins intéressant.
C'était pomme jet, c'est gravité. Ouais, pomme jet, je crois, non c'était
Oui, c'est ça, ça, je crois. Oui, c'est un petit peu moins bien, parce qu'on rappelle qu'Acide Malik, ça diminuait la défense spéciale de l'adversaire de deux niveaux à chaque touche, donc c'était vraiment bien. Eh bien, Bombo Sirop, en fait, ça recouvre la cible d'un sirop et ça fait baisser sa vitesse pendant 3 tours. Donc s'il reste là 3 tours, il va prendre moins 3 en vitesse, ce qui peut être très intéressant, notamment en combat duo dans le format officiel, puisque les Pokémon ont moins tendance à être switchés que dans le format normal. Et il a un nouveau talent, donc talent signature, qui s'appelle Nectar Mielleux. Bon, qui est sympathique, sans être peut-être exceptionnel, bien que, je pense, utile, toujours en combat double. Une odeur de nectar sucré se répand quand il arrive en combat, et ça baisse l'esquive des Pokémon adverses. Le problème, c'est qu'a priori, ça fonctionne seulement la première fois que Pomme Drameau rentre sur le terrain, un petit peu comme le nouveau, comme le rework du talent de Zacian et Zamazenta. Donc ça sera pas à chaque arrivée, truc qui, mais malheureusement, ça fait un peu, peut-être pas le figure, qu'on peut comparer à une intimidation, par exemple. Mais bon, s'il arrive au bon moment, sur des attaques assez peu précises, ça peut aider. Voilà.
Il y avait pas déjà un talent qui faisait ça?
J'ai pas souvenir.
Parce que ça me paraît quand même assez commun, en fait. Comme... Enfin, je suis juste étonné que ça n'existait pas déjà, en fait.
Baisser l'esquive de mémoire, c'est l'attaque gravité qui fait ça. Qui rend les cibles plus faciles à atteindre.
Ouais, bon, t'as jet de sable, t'as pas mal de... Non, jet de sable, je suis bête, c'est la précision.
C'est la précision, ouais.
Tu as... Alors, attends, en esquive... Bon, je sais plus ce que tu avais, mais ouais, je trouvais que c'est assez basique, donc je suis assez étonné que ce soit le premier talent de la sorte en 9e génération, mais pourquoi pas, au moins ça fait une nouvelle arrivée. Est-ce que tu... Déjà, entre Dratatin et Pomme Drapi, est-ce que tu avais un petit préféré?
J'adore Dratatin, je le trouve trop mignon, j'ai envie de lui faire des câlins et à la fois de croquer dedans, c'est assez paradoxal.
je suis pareil, hein. Je suis un grand fan de Dratatin, j'ai évidemment la petite figurine Bandai de Dratatin au milieu d'autres Pokémon, mais Dratatin il me le fallait à tout prix, je l'adore. J'ai d'ailleurs été un poil déçu quand j'ai vu sa véritable taille, puisque j'avais découvert son visuel avant, et après j'ai vu qu'il était tout petit, moi je l'imaginais énormissime, ah oui. J'aurais aimé un énorme Dratatin, mais bon, peut-être qu'un jour il aura une surévolution derrière, pourquoi pas. Et du coup, Pomme Drameau, il se situe où dans les trois?
Devant Pomme Drapi, j'aime pas trop le design, et il faudra voir avec l'expérience, il pourra peut-être passer Dratatin, de mon point de vue, parce que je le trouve vraiment, vraiment mignon, donc faudra voir.
En tout cas, j'adore, vraiment, je suis très content. Après, un peu déçu au niveau du type, ça aurait été bien de changer trois plans de dragon à chaque fois, le même type avec l'évolution. Surtout qu'avec la confiserie, je m'attendais potentiellement à un type fée.
C'est vrai, hein, ça aurait été plutôt logique aussi, ouais.
Hein, le sucre, hein, on se souvient de Charmy, Cup Canaille, etc. Le briochien, tout le sucre est associé au type fée dans Pokémon, les sucreries. Ils auraient pu faire plante fée, dragon fée, je sais pas trop. Dragon fée, ça aurait été sympa.
Ça aurait été bien, oui. Comme quoi le côté végétal est entièrement recouvert de sucre, et finalement, il reste que le vert, entre guillemets, plus le sucre, et ça aurait été très bien. Parce que dragon fée, il n'y a pas grand chose. Il y avait Mega Altaria à l'époque, et je sais même pas s'ils en ont. Non, ils n'ont pas rajouté un.
Ils n'en ont pas rajouté un? J'ai un doute, il me semble que oui.
Ah mince.
Si, attends.
Je ne vais pas dire de bêtises.
Si, ils l'ont forcément fait, attends. Ah, c'est terrible. Oh, les faux experts de Pokémon.
Dragon Fée, c'est s'il y en a eu un, c'est soit à partir de Legends, soit à partir de la 9e génération. Avant, et puis
beaucoup. C'est sûr qu'il n'y en avait pas avant Legends, parce que j'avais fait la liste des types qui pouvaient y avoir, des nouvelles combinaisons qui pouvaient y avoir pour la 9e génération. Mmh. Et Dragon Fée en faisait partie, et j'attends forcément mon Dragon Fée, parce que le Fée est un de mes types préférés. Bon, pendant que je vais vérifier, je vais te laisser nous parler du coup du deuxième nouveau Pokémon qui était présenté, là aussi une nouvelle évolution, c'est Pondralugon, une nouvelle évolution de Duralugon. Alors ça, je ne l'ai pas vu venir du tout, Duralugon qui chope une évolution. Est-ce que selon toi c'était nécessaire?
Alors nécessaire, je pense pas, mais il a l'air quand même intéressant le truc. Alors juste, je te coupe juste, seulement Dragon Fée selon Poképédia sur Mega Altaria, enfin c'est le seul Pokémon a priori, il n'y en aurait pas de nouveau.
T'es rapide, on peut encore attendre pour en avoir un, effectivement, voilà. T'as raison, ouais.
Donc Pondralugon, c'est l'évolution de Duralugon, un Pokémon assez étrange, dragon acier de 8ème génération, donc c'était un petit peu le Pokémon signature de Roy, le champion dragon.
Alors déjà, je vais pas t'interrompre, je dis assez étrange, faut savoir que Duralugon à l'origine, c'est la fusion du coup d'un dragon, enfin d'un kaiju même, on va dire cette espèce de monstre japonais qui attaque là les trucs dans les Sentai quoi, et d'un immeuble.
C'est ça, l'immeuble c'est très visible dans le côté Gigamax.
Ouais.
Je trouve personnellement que dans sa forme normale, surtout quand il attaque, il ressemble beaucoup plus à un inhalateur de Ventoline en fait. Il ressemble trop à ça. Mais bref, je sais pas. Mais on va dire oui, un immeuble c'est ce qui paraît le plus logique. Et donc son évolution, lui, Pondralugon, comme son nom semble l'indiquer, eh bien il ressemble à un pont. Et quand il attaque, justement il prend sa forme de pont. Ce qui est assez intéressant, c'est parce que. On va dire le clin d'œil est plus que poussé envers le pont qu'on trouve sur Unis, après Volucité, je crois. Je me souviens plus du nom du pont, mais bref. Si vous voulez, il ressemble au célèbre pont américain de San Francisco, c'est ça ? Je dis pas de bêtises. Golden State Bridge.
Le Golden Gate ?
Oui, le Golden Gate, c'est pas ça. Je confonds toujours San Francisco et Los Angeles.
Ouais, le Golden Gate, c'est bien, c'est San Francisco.
Oui, ouais. Okay.
Mais j'ai pas trouvé qu'il lui ressemblait. Faut que je revoie à quoi il ressemble. Je trouve qu'il ressemble à rien, moi, Pondralugon, hein, très clairement.
En fait, sa forme de base, ça va. Après, la transform en pont, je suis pas un grand fan. Mais a priori, oui, voilà, il utilise cette, on voit sur le site officiel qu'il vraiment il se déplace, il se déboîte. Ça fait vraiment comme un jouet de Transformer, un petit peu comme les enfants ont. C'est quand il utilise sa capacité signature Fulgurayon. Alors le truc étrange, c'est que sa capacité signature est de type électrique, sachant qu'il est dragon acier, comme sa pré-évolution. Bon après, c'est pas la première fois, on avait eu Croquefort sur Torgamore en 8ème génération qui était ténèbre, alors que lui était roche haut, donc pas vraiment de rapport. Mais la capa est intéressante parce qu'il s'agit un petit peu d'un équivalent de lance-soleil avec de l'électricité, et qui peut se lancer en un seul coup quand la pluie est présente. Donc lance-soleil, un seul coup avec le soleil, Fulgurayon, un seul coup avec la pluie. J'imagine que ça tapera assez fort comme un lance-soleil, donc c'est plutôt pas mal, et voilà, ça c'est, on va dire, c'est my two cents, à mon avis, à l'instar de Férosinge, Kourou-Singe, de Girafarig. Je pense que Duralugon apprendra cette attaque à un moment donné, et soit directement en passant de niveau il évoluera, soit il faudra l'utiliser, je sais pas, 5-10 fois, un truc comme ça. Je pense qu'il y aura quelque chose autour de ça, et qui fera qu'à l'avenir il pourra aussi évoluer comme ça, puisqu'il aura accès à l'attaque, donc ça posera pas de problème. Et enfin, dernier truc que je trouve vraiment sympa, c'est qu'il a le double talent endurance-fermeté, donc fermeté, je vois pas trop d'intérêt, c'est un Pokémon qui a beaucoup de résistance, et qui je pense sera très solide, sachant que Duralugon est déjà solide.
Alors on rappelle fermeté, c'est ça empêche d'être mis KO en un tour avec une attaque
c'est ça, si tu as
one hit KO si tu as toute ta vie, exactement, il te reste au moins un PV.
Voilà, c'est ça, que ce soit avec une attaque comme Abîme, en palquant tout ça, ou même une attaque super efficace, bien boostée. Donc sur un Pokémon extrêmement solide, bon, c'est pas génial, mais il a endurance par contre, et ça c'est le talent que jusque là Bourino savait. Et en fait, à chaque fois qu'il se prend une attaque de contact, plus ça en défense. Et là, on imagine que cette bête... J'ai pas remarqué, Duralugon, je crois qu'il doit avoir Big Splash. Donc oui, Big Splash qui est une capacité qui utilise la défense au lieu de l'attaque pour taper. Ça peut être sympatoche, ça.
Ben, sachant qu'en tant que Pokémon acier plutôt lent, je pense qu'il a déjà une bonne défense de base. Et déjà, Bourinos avec endurance, une fois que sa défense est bien boostée, ben, il devient quasiment intouchable avec du physique. Donc c'est vraiment un très très bon, un peu cheaté, je trouve d'ailleurs, ce talent limite.
Il est très très fort. Faut voir maintenant niveau statistique si on a un grand gain par rapport à Duralugon ou quelque chose d'assez petit comme on a vu pour Quillfish, Quillpeak. Faut savoir que Duralugon de base a 85 de vitesse, ce qui est quand même pas mal. Un petit 50 de défense spéciale léger, et j'imagine bien une version qui réduise la vitesse, qui augmente sa défense au spécial ainsi que sa défense, vraiment un truc beaucoup plus pâteau, mais beaucoup plus solide. Mais voilà, je sais pas, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur ce Pokémon, comme ça, en le voyant comme ça, visuellement, bah oui, faut aimer on va dire, mais... Ça peut être cool. Et surtout aussi, une petite chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que ça ouvre la porte au petit Duralugon avec les Volurock. Et là, ça peut être costaud aussi.
Voilà. C'est vrai.
En blindant les points de vie, la défense spéciale, ça va être très très fort. Parce qu'au niveau 100, bah, il peut passer à plus de 330, un truc comme ça en défense spéciale. Plus un coup de 450 en défense, c'est bien. C'est très bien.
C'est assez costaud. En tout cas, nos amis, les détracteurs qui n'aiment pas les Pokémon objets, en ont pour leurs frais entre un pont et une pomme d'amour. Voilà, pomme d'amour et Pondralugon, les deux nouveaux Pokémon qui ont été annoncés officiellement pour le DLC de Pokémon Écarlate et Violet. Mais ce n'est pas tout. On a également eu des images de nouveaux Pokémon Paradox. Heureusement, Suicune et notre ami, oh j'ai oublié son nom, c'était Viridium, ne seront plus seuls en tant que forme de Paradox, hein, donc Vert de Fer et Serpentot vont être rejoints très prochainement par un Raikou Paradox et un Cobaltium Paradox. Alors, je vais garder Raikou pour la fin parce que je suis in love déjà. Cobaltium, comme toutes les formes futuristes, comme tous les paradoxes du futur, et ressemble plutôt à l'original avec un petit côté licorne, je dirais, par moment quand il attaque. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce Cobaltium ?
Visuellement, en jeu, j'aime beaucoup le rendu, bien plus que celui de Viridium. Que,
ouais, moi aussi.
J'avais pas été fan du tout. Là, on voit quand même un côté robotique, mais un petit peu plus, avec des bords, on va dire, des côtés plus ronds. En fait, l'autre faisait beaucoup plus avec des comment dire, il faisait beaucoup plus géométrique, beaucoup plus avec des formes très rectangulaires, très coupées comme ça. Alors que celui-ci est beaucoup plus élancé. Beaucoup plus sympa, et le truc que je trouve bizarre aussi, c'est qu'entre son artwork et puis sa version en jeu, bah, il y a quand même une certaine différence, notamment au niveau de ses cornes, qui ont l'air vraiment très rigides. En fait, je trouve que l'artwork, vraiment, ne lui correspond pas du tout, ça lui ressemble pas du tout au modèle en jeu. Je sais pas si tu les as sous les yeux, mais
non.
J'ai l'impression que c'est deux choses différentes, et ça c'est... sont un peu curieux quand même, parce que l'artwork fait beaucoup plus robotique, alors que l'autre a un côté bien plus stylé. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est, en jeu, en tout cas, c'est l'une de mes versions futuristes préférées. Par contre, son nom, Chef de Fer, pof, je trouve, honnêtement, sur les paradoxes, les traductions françaises, assez mal inspirées. Et c'est un peu embêtant, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi. Parce qu'en anglais, il s'appelle... Iron Crown, donc si tu veux couronne de fer, là on a chef de fer.
Ah, chef de fer, du coup les noms français ont été révélés. Ah, j'avais pas vu pour
c'est
les noms français du coup.
Oui, et
chef de fer. Alors, oui, mais alors, chef, c'est la tête en français. Hein. Chef, c'est
oui,
couvre-chef,
ouais,
etc. Donc,
bon.
C'est pour le jeu de mots. Je trouve ça assez intéressant, pourquoi pas. Il y aura un rapport avec sa tête, j'imagine, dans le côté, il va l'utiliser, tête de fer, tout ça, ce genre de choses. Mais pourquoi pas, écoute.
Et le deuxième, le Raikou, donc en anglais c'est Raging Bolt, et en français c'est Ire Foudre. C'est dommage, pendant le stream je me suis dit, il a un long coup, ils avaient un boulevard pour l'appeler Coup de Foudre, et ils l'ont pas fait.
Ouais, mais alors Coup de Foudre, est-ce que ça aurait été assez court ? Bah déjà, le problème c'est que effectivement les noms du paradoxe du passé sont en deux mots simplement, donc ça aurait pu faire Coup de Foudre à la rigueur.
Oui, ou coup, tu mets un dé à la fin.
Ah oui,
foudre.
Oui, comme coup de boule d'ailleurs.
Ouais.
Oui, ça aurait pu être sympa, effectivement, dans ce cas-là. Et ça aurait raccourci en plus le nom. Ir foudre, tu dis ?
Oui.
Ouais, donc t'as le côté raging, donc ir avec
colère,
la colère.
Ouais.
Et c'est le problème, c'est que nous, nos mots en français sont un petit peu longs. On a une langue qui aime bien les longs mots, donc c'est un petit peu compliqué pour ces pauvres Pokémon qui ont des noms composés. Alors, ben, puisque tu en parles en tout cas de ce Raikou paradoxe, ir foudre donc. Comment tu le trouves ? Alors moi, il faut que je dise, je suis amoureux de ce Pokémon. Déjà, j'adore les dinosaures. Donc, quand ils ont mis un Raptor Suicune, j'étais tout fou. Mais là, un Diplodocus Raikou, il ne ressemble à rien. Ça, on est très très clair parce que cette pauvre bête, ce pauvre Raikou, il est complètement déformé. Mais je le trouve absolument génialissime.
J'imagine que tu as vu son artwork officiel en plus. Que
mais même pas, j'ai même pas encore vu les artworks officiels.
Oula, mais attends, je te montre parce qu'il y a un truc que t'as certainement pas vu. Hop, je t'envoie ça directement. Tac, c'est... ouais, il y a quelque chose qui m'a échappé là-dessus, parce que on va dire Raikou a une sorte de longue crinière, et bien son artwork, si vous ne l'avez pas vu, bah
c'est ça, il a
une espèce de crinière, ouais. Il l'entoure
autour du cou,
voilà, on dirait une sorte de nuage.
Il y a un petit mélange entre un Dilophosaure et un Diplodocus du coup.
Oui,
c'est le dinosaure à collerette là, mm-hmm. Jurassic Park à la
oui,
fin
oui.
qui
balance du poison, je crois.
C'est ça, exactement. Enfin, ça, c'est dans Jurassic Park, parce que
oui, bien sûr.
Il le fait pas. Mais, il est vraiment stylé, je trouve. Franchement, il
ah
est
oui
vraiment trop, trop beau.
Moi,
j'aime
beaucoup avant cette collerette. Bon, après, voilà, je le trouve quand même assez amusant. Et je pense que ça nous donne un indice assez, assez précis sur, sur son type à lui.
Vol ?
Non, je pense en vrai que les trois, les deux paradoxes déjà existants du passé, Suicune au dragon, je pense que ce sera électrique dragon. Et en extrapolant, je pense qu'il y aura un Raikou feu dragon.
Et Entei, tu veux dire ?
Ah, pardon, Entei, oui, le type feu.
Attends, je suis perdu. Serpento était de quel type déjà ? Il était au dragon.
Au dragon, Serpento au dragon, Irfoudre. C'est basé sur un dinosaure. Il y a plusieurs Pokémon dinosaures qui sont de type dragon. Je vois
type,
bien.
Oui, comment il s'appelle le fossile ?
Rexilus.
Rexilus, voilà.
Voilà, je vois très bien Electric Dragon là-dessus, parce que vraiment la thématique des dinosaures est totalement.
Bah le côté long cou de toute façon aussi, ça fait un côté draconesque si je peux dire.
Tout à fait. Et alors ça ce n'est que moi qui l'imagine. Je pense qu'à un moment donné, on devrait avoir peut-être dans le deuxième DLC, parce que là ça a l'air d'être plutôt dans le premier. Ouais. Dans le deuxième DLC, là, les deux autres qui manquent, donc d'un côté Entei et de l'autre Terrakium, certainement pour faire quelque chose avec ces fameuses formes de chimère décrites dans l'île de Bruyère, bref.
Oh là 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 là.
Et je vois bien un Entei qui soit inspiré du Tyrannosaure, soit du. C'est quoi, Stégosaure, celui avec le
dos. Ah, ce serait cool. Ah ouais, le Stégosaure, ouais. Bah, en fait, le Tyrannosaure serait trop proche du Vélociraptor, je trouve, le côté bipède carnassier, alors qu'effectivement, un Stégosaure, ce serait assez cool.
Par exemple, à la place de ces grandes épines, bien des flammes sur le dos, il y aurait quelque chose de sympa à faire. Mais bon...
Mais va bosser chez Pokémon.
Mais on se disait, avec cette histoire de livres de Bruyère, avec ces chimères... Quand on a vu Suicune et Viridium arriver, on s'est dit qu'il allait certainement avoir les autres. Là, on a les deuxièmes. Voilà. Je vois pas comment ils peuvent se dire oui. « Oh, bah non, en fait, les troisièmes, on les met pas. »
On va arrêter. du coup, je fais une toute petite parenthèse, parce qu'en parlant de création de Pokémon, je parlais, donc je présentais ces nouveaux Pokémon à mon compagnon. Mm-hmm. Alors, il sait que... Enfin, je lui ai dit à quel point je kiffais Verpom et ses évolutions. Et il sait qu'un de mes desserts préférés, c'est la Pavlova. Et du coup, il me dit « Mais à quand un Dravlova ?» Et vous l'avez entendu ici en premier, si un jour un Dravlova existe... c'est donc mon compagnon qui a eu l'idée en premier, mais maintenant je veux tanner Pokémon pour qu'il crée un Dravlova en nouvelle évolution de Verpom. Bref, je reviens à nos amis Raikou et Cobaltium. Qu'est-ce que tu penses de l'idée générale de déjà d'avoir choisi des anciens trios pour en refaire des nouveaux entre guillemets? On avait déjà retrouvé ça avec les oiseaux de Galar quelque part.
Voilà, ils aiment bien faire du neuf avec du vieux. Ils le varient, mine de rien, parce qu'on a eu les formes régionales, là on a les formes paradoxes. Qui sait ce qu'on aura dans les prochaines générations. Mais je trouve que c'est une façon plutôt sympa de, on va dire, de reprendre des concepts qu'on a bien aimés, sans trop tirer dessus à la Dracaufeu, par exemple, qui a deux formes méga, qui a un Gigamax. On parlera peut-être de quelque chose après, quelque chose que je vois arriver gros comme un camion, mais... là c'est un peu plus travaillé, on aime ou on n'aime pas, perso je suis pas un grand fan des paradoxes mais j'aime bien ce qu'ils en font. Et alors bon, on peut partir très loin, mais il y a quand même beaucoup de choses dans cette 9ème génération ainsi que dans les DLC qui s'inspirent soit de Johto soit du Nice. Et pourrait se dire que
je te vois venir.
serait-ce peut-être une petite mise en bouche en faveur de deux jeux qui sont pressentis. Le premier, je ne ferai pas spécialement plaisir, mais qui devra arriver un jour, ce serait un Let's Go sur Johto. Ouais. Et le deuxième, eh bien, peut-être un remake de 5ème génération avec pourquoi pas un Legends qui parle du dragon originel.
Une chose est sûre, c'est que le remake de la 5ème génération, on y aura droit un jour. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Quand, on ne le sait pas trop. Let's Go 2, c'est moins sûr.
Oui, mais c'est vrai que. Plus, hein.
Ah non, moi j'aimerais bien. En tout cas, sur ces nouvelles formes, les paradoxes du trio de bêtes légendaires, je suis ultra fan et j'adore ce design complètement pété de Raikou. Vraiment très sympa. Est-ce que tu penses qu'il y aura d'autres nouveaux Pokémon dans le jeu, dans le DLC? Donc, outre les deux dernières formes qu'on débloquera peut-être dans le disque Indigo et la tortue qu'on a déjà évoqué, tout ça.
On a des évolutions d'anciens Pokémon. Pourrait peut-être y avoir quelque chose de plus régional et je vois bien exploiter de nouveau le concept des évolutions convergentes, enfin des formes convergentes, pardon.
Oui,
comme on avait eu avec
bien.
Terra Cool, Terra Cruel, Topico, Triopico, et je les vois bien en ajouter, hein, comme ça, un petit histoire de marquer le coup, quoi.
Ouais, je pense qu'on a vraiment besoin, histoire que ça soit pas trop gimmick, parce que là, avec juste deux formes convergentes, clairement, t'as l'impression que c'est une idée qu'ils ont eue un mois avant la sortie, ils se sont dit, tiens, ça peut être rigolo, puis pouf. Ou alors, c'est des formes régionales qu'ils ont pas trop su expliquer, que du coup, pouf aussi. Enfin, ça semblait vraiment trop sorti du chapeau, et je trouve ça un petit peu dommage. Et j'espère qu'on aura aussi des formes régionales, potentiellement, ça pourrait être bien d'étoffer, parce que là aussi, on en a eu que deux, et je comprends pas le principe d'en ajouter deux. Enfin, soit t'en mets, soit t'en mets pas. En fait, c'est ça que je trouve un petit peu frustrant, à mon sens.
C'est vrai que c'est très peu. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouvera à l'avenir, parce que c'est pas quelque chose de vraiment spécifique à Paldea, et je pense qu'à l'instar des formes régionales, ils en ajouteront dans les prochaines générations. On aura un mix de formes régionales, de formes convergentes. Ça sera un petit peu plus dilué à l'avenir. Là, en fait, je pense que l'inconvénient, qui est mine de rien une fonctionnalité principale de Paldea qu'on ne devrait pas revoir après, c'est qu'on a peu de formes régionales, on a peu de formes convergentes, c'est parce qu'on a des paradoxes qui sont assez nombreuses, qui reprennent des anciens Pokémon, et je pense qu'ils ont plutôt mis l'accent là-dessus, avec un tout petit peu d'à côté, bah voilà, pour éviter de trop recycler quand même. Mais c'est dommage, parce que personnellement, j'adore les formes évolution régionale, ainsi que le principe des formes convergentes.
Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Petit listing des nouvelles activités dont on pourra faire l'expérience du coup dans le DLC de Pokémon Écarlate et Violet. On n'a pas vu beaucoup de mécaniques de gameplay, hein, pas de move tutor, pas de magnéto VS, désolé mon cher Mali. En revanche, tu as subodoré une fonction qui permettrait potentiellement de retoucher enfin les EV de son Pokémon sans trop se galérer.
C'est ça, il s'agit de Mochi, je crois, si je me souviens pas, si je dis pas de bêtises, qui serait disponible donc dans le festival du premier DLC. Ça nous met que ça peut retoucher les statistiques de base des Pokémon, soit en ajoutant, soit en réduisant, et je crois que ce qu'ils appellent statistiques de base dans le jeu, bah je crois que c'est les EV. J'aurais préféré peut-être que ce soit les IV, parce que même si on a les capsules d'or, capsules d'argent, je trouve qu'il manque un moyen déjà de les diminuer, parce que certains Pokémon, le zéro en vitesse, il est nécessaire, voire indispensable. Et donc si vous capturez un Pokémon légendaire et qu'il n'a pas son zéro en vitesse, bah, c'est un petit peu embêtant s'il en a besoin. Ainsi que pareil, bah, le zéro en attaque. Voilà, si on veut un Pokémon vraiment optimisé, dès qu'il tape sur le spécial, pour l'optimiser, il faut qu'il ait zéro en attaque, tout simplement, parce que la confusion vous fera moins de dégâts, et les attaques tricheries de l'adversaire vous feront moins de dégâts, vu que ça utilise votre stat d'attaque. Et ça manque un petit peu. Mais je pense que ce sera plutôt au sujet des EV de l'entraînement, parce qu'en 9e génération, ah, c'était très long à faire. Les protéines et compagnie, ça coûte très cher. Le farm d'argent, il est pas évident non plus, hein, c'est pas le Pérou, donc... Voilà, un moyen plus simple d'entraîner ces Pokémon, de les retoucher, ça fait toujours plaisir.
Simple, et surtout, j'espère que ce sera pas trop fastidieux en temps non plus, on verra comment ça fonctionne exactement, mais redonnez-moi simplement l'ordinateur Motisma, là, dans 8G, même Lilo en 7G,
bien,
à la rigueur, je reprendrai même le mini-jeu qu'on avait en 6G, enfin bref, je veux un truc simplement qui me permette de faire mes EV tranquillou. Et de pouvoir créer des petits Pokémon parfaits pour après explorer les autres versions. Ça, c'est vraiment mon petit kiff. On a vu plein de mini-jeux. Alors vraiment, je fais pas une liste exhaustive parce que je trouve pas ça très très intéressant. Mais on voit que c'est vraiment des trailers qui sont faits pour le grand public. On a vu des photos, hein, des petits safari photos. Bon, pourquoi pas Pokémon Snap, New Pokémon Snap est beaucoup.
Alors je voulais juste dire un petit truc là-dessus.
Ouais.
Alors c'est que personnellement, en tant que contenu créateur de contenu Pokémon, je suis très content de cette nouveauté.
C'est vrai.
Parce que souvent, pour illustrer mes vidéos, je fais des petites vidéos de mes Pokémon. Et autant en 8e génération, quand je voulais montrer un Pokémon, je l'emmenais dans un pique-nique, il bougeait pas, c'était très bien. Mais là, c'est une galère sans nom quand on fait un selfie. Au bout de 5 secondes, le Pokémon nous tourne autour, après il s'endort, il fait n'importe quoi. Et là, donc, ça sera possible de les placer à notre convenance sur la photo pour les disposer comme on voudra. Et personnellement, ça va beaucoup me simplifier la vie.
C'est vrai que du coup, ça pourra me permettre de faire une série de vidéos que j'ai toujours voulu faire et que je n'ai jamais faite et que je vais peut-être pouvoir me lancer grâce à ça. Donc effectivement, la Pokémon Company pense aux créateurs de contenu et ça, c'est beau. On a vu aussi des petits exercices en vol avec la monture. Pourquoi pas surtout, ça, on l'a vu surtout dans le dôme du disque Indigo. Mmh. Et on a même vu un moyen de changer son type de lancer de Pokéball.
Oui. Je pense que voilà. C'est quelque chose qui aurait dû être disponible depuis longtemps. Ça fait partie de la personnalisation et c'est pas le truc révolutionnaire, mais bon, bah ça fait plaisir. Moi perso, ce que j'attends, et je pense que je me ferai encore avoir, c'est que j'aimerais que mon dresseur soit gaucher comme moi, et non, ça c'est toujours pas possible, donc je croise les doigts.
Est-ce que t'as pensé à inverser ton téléviseur ou un truc comme ça?
Oui, mais après ça demande un peu. Tu sais,
faut apprendre à lire à l'envers aussi, ça c'est sûr.
C'est ça, parce qu'en fait, si je dois l'inverser à chaque fois qu'il balance sa boule et après que je dois le remettre dans le bon sens quand il combat, ça peut être fastidieux, tu vois.
Ça va être compliqué. Alors, il y a un nouvel élément aussi qui m'a tapé dans l'œil pour le coup, c'est le club de ligue qui permettra plein de petites activités, dont notamment l'appel des autres dresseurs, dont les champions de Paldea, avec des rematchs à la clé. Alors même si on peut déjà avoir des rematchs dans le jeu, ça peut être sympa, je trouve ça assez cool. J'ai toujours été fan des rematchs, je me souviens, avec une immense nostalgie du Café Combat de Pokémon Platine, qui était génialissime et qui n'a pas eu droit à son retour dans le remake de Diamant Perle. Mais là, voilà, on aura des petits rematchs en plus. Qu'est-ce que tu penses de ce club de ligue?
A priori, ça permettra d'apprendre de nouvelles choses sur les dresseurs en question. Bon, ça, c'est pas utile non plus, mais je sais pas si t'as fait attention, mais visiblement, il s'agirait un petit peu de la, entre guillemets, la base secrète de notre génération, puisqu'on pourra la personnaliser. Alors, faut voir jusqu'à où, parce qu'on a pu voir des salles de ligue quand même assez différentes, une très végétale, une beaucoup plus rose. Alors, est-ce que c'est juste, bah, vous choisissez une salle parmi un tel nombre, ou alors si... Pourquoi pas, on peut ajouter de la décoration, des chaises, des statues. J'y crois un peu moins, ça, mais ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup décorer leur petite maison, leur petite cabane et tout. Et voilà, si ça peut leur faire plaisir, ben, ce serait vraiment bien.
Eh bien, pourquoi pas. Alors, de la ligue, enfin du club de ligue à la nouvelle ligue, il n'y a qu'un pas, puisqu'on découvrira une nouvelle ligue dans le disque Indigo, comme on l'avait pressenti dans les épisodes précédents. Cette seconde partie de DLC sera bien plus calquée sur le combat, comme on l'a vu, et il y aura donc une nouvelle ligue avec 4 nouveaux membres du Conseil 4. Si je me souviens bien des types, il y avait un dresseur, très clairement c'était le feu, une autre ça allait être spectre ou ténèbres, électrique aussi il me semble, je sais plus trop le dernier, est-ce que tu te souviens à peu près?
J'ai pas fait attention à leur Pokémon, je pense que
C'est pas leur Pokémon, c'était vraiment leur style, hein. Celui de feu, il a une poêle, il a les cheveux rouges, et il rappelle un petit peu
du coup, cuisinier, complètement.
Adrien de la 4e génération. L'autre avait des lunettes très sérieuses, elle rappelle un petit peu Chantal, non pas Chantal, Chantal c'est en anglais, enfin c'est Chantel je crois, 5e génération à la ligue, comment elle s'appelle en français, je ne sais plus, avec ses lunettes, qui était très très cool et qui avait le type spectre à Unis, enfin voilà, il y a un petit côté un peu comme elle je trouve, et le dernier je crois que c'est Inizio,
Irido. Alors lui il a un grand blouson noir avec un grand dog dessus, donc un type ténèbre.
Ah, donc ténèbre plutôt, effectivement.
Après, d'un autre côté, il a une sorte de bas de robe qui semble avoir des têtes de dragon dessus, donc c'est vrai qu'il a du violet, il a du noir, donc...
Si Irido, ça se trouve, iridescent, peut-être un côté dragon aussi, ça pourrait être possible.
C'est un adepte de l'école buissonnière, il aurait triplé l'année scolaire, donc ça c'est typiquement le genre de bad boy type ténèbre, mais il y a du dragon aussi, alors... Est-ce qu'il ne sortirait pas, pour une fois,
des doubles types
avec deux types? Ce serait bien, ce serait moins facile, mais bon.
Ah, faudrait... Est-ce que tu as un autre dresseur sous les yeux, là, pour nous le décrire, pour voir si on pourrait sentir deux types?
Il y a Taro, c'est la fille qu'on avait vue lors du premier DLC, donc elle est assez grande, longiligne, elle a des barrettes qui peuvent faire penser à des gemmes Z. Après, elle a une sorte de veste de scientifique assez rose, elle a des petits nœuds. Ça pourrait ressembler à un type fée, mais bon, elle a un pantalon bleu à côté, je sais pas trop. Le cuisinier en question, bah oui, il a sa poêle, il est quand même assez rouge. Il est rouge avec un peu de jaune quand même, donc est-ce que ça sera un feu électrique?
Un peu d'électricité?
Ça pourrait être marrant. Et par contre, la Nérine, elle est droite comme un i. Elle habille tout en bleu, et elle a une sorte de... Je sais pas, alors... Ah non, c'est... Ok, d'accord, c'est une montre à gousset qu'elle tient dans sa main. Parce que j'allais dire des boules de geisha, mais c'est pas tout à fait ça, en fait.
Non.
Même si, bon, ça en a la forme, l'épaisseur et tout. Mais voilà, elle a un air de... Voilà, apparemment, elle garde son sang-froid dans n'importe quelle situation. Et elle a une carapace d'acier qui cache une personne qui tient énormément ses proches. Donc, bon.
Bah, c'est marrant parce que carapace d'acier, forcément, on pense au type acier. Et en même temps, Nérine, ça fait penser à Néréide et il y a un côté eau
oui,
aussi.
Elle est toute en bleu, donc pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose, peut-être.
Après, c'est marrant parce que quand tu dis eau et acier, ça me fait forcément penser du coup à Dialga et Palkia. Et quand tu me dis feu et électrique, ça me fait penser forcément à Zekrom et Reshiram.
Dragon et ténèbres, est-ce qu'on aurait un truc avec ça?
Non, il n'y a pas de paire de Pokémon comme ça. Mais enfin voilà, là c'est juste des idées comme
oui,
ça
oui,
qu'on,
voilà, oui,
qu'on lance
ouais.
comme ça. Mais en tout cas, une nouvelle ligue. Alors j'étais très déçu justement dans le jeu original qu'on ne puisse pas faire de rematch de la ligue. Enfin ça, c'est toujours mon plaisir dans Pokémon, c'est de faire, faire la ligue en boucle. Littéralement pour monter mes Pokémon de niveau, c'est vraiment mon délire à moi depuis Pokémon Rouge et Bleu. Et là, on pouvait pas refaire la ligue. C'est quoi cette histoire? Surtout que le combat de la ligue était sympathique parce que je trouvais les personnages assez marrants, mais en tant que tel, le lieu déjà, bah, il paye pas de mine. C'était une pauvre salle un peu
salle
nulle.
D'examen.
Une salle d'examen, ouais. À la rigueur, le petit examen avant, c'était rigolo. Mais l'examen en tant que tel, bon, c'était pas terrible. Ça envoie pas la même classe, par exemple, que, on en parlait, la Ligue du Nice, qui était absolument incroyable, je trouve, en termes d'atmosphère et de rendu. Donc, j'étais un petit peu déçu. Et je suis pas sûr qu'on ait beaucoup plus de cérémonial dans ce DLC. Mais à la rigueur, c'est un petit plus sympathique.
Voilà, oui, je pense que cette absence de rematch de ligue, c'est parce qu'en fait, c'est pour une fois, c'est pas l'objectif principal du jeu, c'est juste la fin d'un des scénarios, et donc voilà, c'est, on va dire, c'est les épreuves de fin d'année d'école pour les bons dresseurs. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa quand même.
À mon avis, ce sont des épreuves qui seront là un petit peu comme un examen justement pour le joueur, pour lui permettre d'accéder à ce qui a été teasé du coup à la fin du trailer. C'est le retour à la zone 0, donc le cratère au cœur de Paldea, parce que d'une manière ou d'une autre, cette aventure que l'on fera à l'extérieur, du coup, en dehors de Paldea, je rappelle, c'est Septentria, du coup, dans le scénario du masque turquoise, et c'est l'Institut Myrtille pour le disque Indigo, eh bien, cette aventure à l'extérieur de Paldea va nous ramener au cœur même de Paldea et aux origines de la recherche, donc des chercheurs qui se sont installés dans ce cratère que l'on voit à travers le livre écarlate ou le livre violet, le fondateur de l'Académie Orange ou l'Académie Raisin. Enfin, on va trouver enfin le secret autour de tout ça, peut-être même le secret des raids Terra Crystal, de la Terra Crystallisation. Moi, vraiment, ça me hype de fou parce que vraiment, j'avais peur qu'il laisse de côté cette intrigue, et moi ça me rassure en fait. Et je me dis, ça va sûrement étendre un petit peu tout ce qu'il y avait de génial dans cette dernière partie de Pokémon Écarlate et Violet, qui est vraiment ma partie préférée, c'est l'exploration du cratère. Toi, comment tu ressens ce retour aux sources en quelque sorte?
En fait, visiblement, d'après ce que le site officiel dit et ce qu'on peut en déduire, il s'agirait un petit peu d'une continuité qu'on ferait à la fois dans le premier et le deuxième DLC, parce que il va y avoir, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si tu avais fait attention, mais des formes Terra Crystal spéciales. C'est-à-dire des formes Terra Crystal qui n'ont pas l'apparence du Terra Crystal classique avec le logo dessus. On en a vu deux. La première, c'est celle d'Oguerpon, le légendaire méchant du premier DLC. Mm-hmm. Lui, sa forme Terra Crystal spéciale, eh bien, sa tête devient énorme au point où on ne voit que ses pattes. On ne sait pas si cette forme-là lui apportera des statistiques, si ce sera juste cosmétique, si ce sera accessible n'importe quand. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas pour l'instant. Est-ce qu'il faudra, par exemple, un masque? Parce qu'on a vu qu'il y avait des objets de masque dans ce DLC-là. Et est-ce qu'il y aura besoin d'un objet? Est-ce que c'est une façon un peu timide de ramener une sorte de méga-évolution? Ça, je ne sais pas. Et la deuxième, ça a été confirmé. La petite tortue qu'on a vue dans l'animé, eh bien, il s'agit de Terrapagos. Et quand il terracristallise, eh bien, ce sera le Terrapagos très grand avec tous les types sur sa carapace, celui qu'on avait vu le 27 février. Donc ça ouvre la porte à des formes terracristal spéciales comme on avait eu le Gigamax. Perso, je suis curieux de savoir ce que ça apporte de plus. C'est juste visuel, bon, ça apporte pas bien grand-chose. C'est pas nécessaire, mais je me dis que peut-être c'est un peu l'ouverture à des formes terracristal spéciales quand un Pokémon a un type terracristal donné. Et c'est pour ça que je parlais de Dracaufeu tout à l'heure, ça ne m'étonnerait pas que Dracaufeu Terra Dragon ait une forme Terra Crystal spéciale qui change son apparence, parce que c'est Dracaufeu, et voilà. On avait même dit dans mon stream que ça pourrait peut-être concerner les starters avec l'insigne surpuissant, qui ont été donnés avec des Terra Crystaux vraiment spéciaux, voire bizarres des fois. Et on se dit, est-ce que peut-être certains Pokémon, en plus de ces légendaires, auraient accès à ces formes Terra Crystal spéciales, parce que on n'oublie pas, à la Pokémon Company, eh bien, ça sert à faire de l'argent. Et donc, des peluches ou des figurines ou quoi de nouveaux Dracaufeu avec une forme très spéciale, brillante, eh bien, c'est du nouveau merchandising qu'ils peuvent vendre. Donc voilà. Donc ça, c'est... On nous a donné une partie de réponse. J'attends de voir plus, s'ils vont plus loin dans le concept ou si ça ne concerne que quelques Pokémon du scénario, en l'occurrence Oguirpon, peut-être les trois légendaires de l'île, ainsi que Terrapagos.
Très bien, bah écoute, je suis très curieux, évidemment, comme d'habitude, un Dracaufeu aura évidemment droit à son petit, sa petite forme spéciale, parce que Dracaufeu, il a droit à tout, ce satané Pokémon qu'on se coltine depuis bien trop longtemps. Pensez à Florizarre, pensez à Tortank, c'est important.
Surtout dans l'animé, un des personnages principaux de l'équipe a un Dracaufeu comme Pokémon signature,
comme par hasard.
Comme si Tarak ne suffisait pas à la saison précédente.
Ah non, mais franchement. Bon, après ce Pokémon Presents, comment tu te sens? Est-ce que tu es un peu plus réhypé par rapport à la fin de l'épisode de Pokédolk précédent?
Oui, alors je suis bien plus hypé déjà parce qu'on a vraiment du nouveau. Parce que si tu veux, on nous avait annoncé les DLC en février avec... c'était pas des images en jeu, c'était quelques petites images de synthèse comme ça, des infos sur le site. On n'avait pas grand-chose, on attendait. On a eu de nouvelles images lors du Nintendo Direct le mois dernier, mais finalement, c'était... quasiment qu'une une mise en jeu de ce qu'on avait eu en février, donc rien de nouveau. Donc c'est vrai que la hype était un peu descendue, et là, elle remonte pas mal. Et je le vois aussi, la hype Pokémon, elle était jusque-là vraiment moribonde. Je le vois sur mes chaînes, sur mes vidéos, sur ma chaîne, ainsi que sur les autres chaînes Pokémon. En ce moment, c'est pas le sujet qui passionne le plus.
Donc, c'est cool, Zelda est passé par là, hein.
Voilà. Et donc là, c'est cool, ça va remettre un petit peu de beurre dans les épinards. Et puis surtout, le DLC arrive dans moins d'un mois, donc ça laisse présager une fin d'année plus agréable que ce gros trou d'air qu'on a depuis la sortie des jeux finalement.
Allez, on croise les doigts. J'aurais pas craché quand même des petites annonces de nouveaux jeux, j'avoue. Un petit truc, un petit remake, quoi ou qu'est-ce, ou un petit jeu, un petit Let's Go 2, pourquoi pas, je sais pas, un petit truc. On verra peut-être d'ici la fin de l'année pour l'année prochaine. Hein. Il faut bien que Pokémon Company, effectivement, puisse vendre des peluches aussi par la suite.
C'est ça, on va attendre le 27 février 2024 pour avoir ces nouvelles informations-là.
Merci beaucoup mon cher Mali d'avoir participé à ce nouvel épisode de Poketalk du coup sur West France. On te retrouve bien évidemment sur YouTube, Malison le professeur Lapin.
Oui, eh bien merci pour l'invitation, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, voilà, je réponds mieux et j'aime beaucoup divertir les personnes qui regardent mes vidéos, leur faire passer un bon moment, qui leur change un peu du quotidien, donc si vous aimez Pokémon, n'hésitez pas.
Merci à tous d'avoir écouté Poketalk, on se retrouve sur le mur des podcasts de West France et dans la rubrique gaming sur le site west-france.fr. À très bientôt, ciao ciao.
Eh bien merci Lou et à bientôt tout le monde.
Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West France. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce programme.